Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille pour la dernière fois en 2023 à une émission d'après-course. Cette fois, c'est dans le cadre du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023, dernier Grand Prix de cette longue saison de Formule 1. Je serai seul dans cet épisode et je vais tout de suite vous donner le classement de ce Grand Prix, en fait le top 10. Et pour la dernière fois en 2023, Max Verstappen a gagné un Grand Prix. Il finit devant Charles Leclerc et George Russell. Sergio Perez, à l'origine, devait finir deuxième, mais il a eu une pénalité de 5 secondes pour avoir causé une collision avec Lando Norris. D'ailleurs, Norris finit cinquième, Oscar Piastri sixième, Fernando Alonso septième, Yuki Tsunoda huitième, Lewis Hamilton neuvième et Lance Stroll complète le top 10, marquant ainsi le dernier point disponible. D'ailleurs, le point boni pour le meilleur tour appartient à Max Verstappen. Et étonnamment, on a perdu un pilote en Carlos Sainz, mais il a abandonné dans le dernier tour. Alors, on peut dire que tous les pilotes ont complété le Grand Prix au-delà des 90% de la distance totale de ce Grand Prix. Donc, comme je serai seul, je vais y aller tout de suite avec mes évaluations. Performance du jour, je pourrais le donner à Max Verstappen qui n'a commis aucune erreur, mais je vais la donner à Yuki Tsunoda qui, même s'il a perdu deux places entre sa position de départ et celle à l'arrivée, a connu un bon Grand Prix. Contre-performance, je vais donner à Ferrari qui a perdu le troisième rang, le deuxième rang, disons sur manque de coopération stratégique, encore une fois, un classique. Et sinon, moment cocasse, on pourrait dire pour l'ensemble de l'œuvre, Charles Leclerc qui joue le stratège, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc, passons maintenant à l'intégralité, en fait, de ce Grand Prix. Pas le meilleur Grand Prix de la saison. On s'entend, on est très loin de Las Vegas et qui, je le dis, ça reste mon Grand Prix de la saison. Ça, et si vous voulez, s'il y a des amis qui vous disent « Ah, j'ai manqué le Grand Prix d'Abu Dhabi, j'ai passé tout droit parce que la course était à 8 heures. » Bon, heure du Québec, évidemment. Et est-ce que ça vaut la peine que je regarde la course au complet? Dites-leur non. Juste les faits saillants qui vont être disponibles sur YouTube, si ce ne l'est pas déjà, ou bien la course en 30 minutes sur F1 TV. Parce que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait tirer globalement à part le fait que Mercedes a fini deuxième au championnat des constructeurs, Ferrari a encore fait du Ferrari avec des décisions stratégiques douteuses et Williams qui finit septième au championnat des constructeurs avec malgré tout une belle performance de Tsunoda qui a mené AlphaTauri presque à leur Eldorado en fait. Mais sinon, ça vaut pas la peine parce que bon, le premier tour a été relativement excitant avec Leclerc qui se bat contre Verstappen sur tout le premier tour. Leclerc était à un cheveu de dépasser Verstappen, mais ce dernier a été capable de bien se défendre et sans pousser son adversaire hors piste comme il l'a fait à Vegas dans le premier tour, ce qui lui avait valu une pénalité de 5 secondes. Mais Leclerc a été un peu moins incisif, je pourrais dire. Ceci étant dit, ça a été quand même Verstappen qui a vraiment dominé. C'est une 19e victoire cette saison, plus les 4 victoires en sprint. Donc, ça fait quoi? 23 victoires en course, entre guillemets, sur les 29 qu'on a eues, étant donné qu'on a eu, ben, en fait, 28, parce que on exclut Imola, mais avec les 6 sprints, Verstappen a été tout simplement dominant. Et vraiment, c'est une saison de GOAT, on pourrait dire. Vraiment, ça a été une saison de GOAT. 19 victoires, quand même, c'est assez impressionnant. 19 sur 22. Il a battu son propre record qu'il avait établi l'année dernière. Mais ce qu'on va retenir, c'est surtout le pourcentage de victoires sur une saison. Parce que vraiment, je ne pense pas que 86,36% de victoires sur une saison, on va avoir ça. Parce que vraiment, et en plus, réussir à battre le record d'Alberto Ascari qui était de 75% établi en 1952. Il n'y a personne qui va réussir à battre ça. À moins de gagner, par exemple, 90% et plus, voire même réussir la saison parfaite. C'est quelque chose qui est possible, mais qui ne sera pas réalisable, d'après moi. Donc, vraiment, Verstappen, c'est une année de presque tous les records. Encore une fois, rien à redire. Et je suis sûr qu'il a regardé une partie de la course du côté des écrans géants parce que il a vraiment demandé à ses ingénieurs de piste, surtout à Gianpiero Lambiase, de demander à ce que ce soit Checo qui reçoive le premier service du deuxième arrêt avant lui. Et ça a presque fonctionné parce que Checo a vraiment été bon sur le dernier relais, à l'exception évidemment de ce moment où il entre en contact avec Lando Norris. Une pénalité de 5 secondes qui pas beaucoup de monde est d'accord. Donc, je pense qu'ils arrivent au quoi, virage 6-7. Perez essaye de dépasser Norris. Les deux entrent en contact. Norris prend la poudre d'escampette par la voie de dégagement. Et reste devant. Mais je dois dire que vraiment, je pense que la pénalité est légère et assez est justifiée dans un sens parce que je pense pas que Perez a manqué un peu le apex. J'ai oublié le terme français, le point de corde pour dépasser Norris. C'était un peu maladroit, mais je comprends la pénalité de la FIA. Et d'ailleurs, il est encore sous enquête pour les propos qu'il a émis à la radio après la course. Parce qu'il a dit, Checo, je suis désolé pour vous. On mérite le podium sur la piste, mais ses commissaires ne sont pas à haut niveau. Et en plus, il a redoublé d'efforts en disant que les commissaires ont été très mauvais, que c'est une blague, et il trouve que c'est injuste de donner une pénalité comme ça. Ça va être une amende. Je ne pense pas que ça va être une pénalité sportive en piste, supplémentaire, parce que je sais que dans le passé, ça s'est déjà produit, que je pense entre autres à Günther Steiner, je pense au Grand Prix de Russie 2018 ou 2019, si je me souviens bien, où il avait carrément, à la radio avec Kevin Magnussen, critiqué ouvertement les commissaires et il s'était pris une amende. Donc, je ne sais pas si ça va être le cas pour Sergio Perez, mais entre-temps, une bonne performance comme à l'habitude de Red Bull. Verstappen dominant, rien à redire. Perez a connu une bonne course quand même, alors je pense que pour Red Bull, ça finit bien. C'est dommage pour la pénalité à Perez, mais pour moi, elle est relativement justifiée. Donc, puis même, il le dit qu'il n'avait plus le contrôle de sa voiture. Il l'avoue. Et pourtant, moi, je pense que le Norris aussi lui a donné de l'espace pour effectuer le dépassement et essayer de le reprendre ensuite pour avoir le DRS. Donc, je pense que la pénalité à Perez était justifiée. Sinon, du côté de Ferrari, qui, avec Charles Leclerc, finit deuxième, ça a été une bonne course pour lui. C'est juste dommage aussi que les stratégistes de Ferrari fassent encore et encore une fois des bourdes. Et surtout dans une situation où Ferrari voulait aller chercher cette deuxième place au championnat des constructeurs devant Mercedes. Alors, il y a eu Leclerc qui a tout fait pour aider Ferrari à finir deuxième au championnat. Donc, quand Checo était plus rapide après son deuxième et dernier relais, il a voulu le laisser passer, mais il était au courant que le Mexicain avait une pénalité de 5 secondes. Donc, c'est juste qu'il était trop tard. Et finalement, ben, Perez a chuté au quatrième rang. Et c'est ce qui a permis, en fait, à Mercedes de terminer au deuxième rang parce que Russell a fini troisième. Alors, ça a été vraiment dans les dernières minutes où Leclerc a tout fait pour jouer stratégiquement. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est que c'est pas seulement d'être le plus rapide, c'est de conduire intelligemment et d'y aller tactiquement parce que tant que ça reste légal, tous les moyens sont bons pour obtenir la position espérée, les points espérés. Et c'est dommage parce qu'on l'a entendu aussi quand à la radio, ça n'a pas été diffusé de manière à la télévision internationale. Ben, il n'était pas très content parce qu'on lui a appris que finalement Ferrari allait finir troisième au championnat des constructeurs. Il a dit for fuck's sake, quelque chose du genre. Donc, mais néanmoins, ça a été un bon week-end pour Leclerc qui s'est qualifié deuxième. Donc, encore une première ligne pour le Monégasque, prouvant que non seulement il est rapide sur un tour lancé, mais que la Ferrari est capable de le faire. Et on l'a vu à plusieurs reprises au cours de la saison. Mais côté rythme de course, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais surtout au niveau stratégique parce que Carlos Sainz, quant à lui, ça n'a pas été fameux. Il a fait un bon premier relais. Un bon début de premier relais, lui qui est parti sur les gommes dures. Excusez-moi. Mais ensuite, ça s'est un peu éteint avant son arrêt au puits, où il est revenu avec encore des durs. Je pense que je sais pas si j'ai dit médium, mais c'était dur. Il a commencé en dur, il est rentré pour d'autres durs, et ensuite pour des tendres avant d'abandonner tout simplement. Mais c'est une stratégie qu'on n'a pas compris, et ça mérite, hein.
It's the history of the Ferrari.
Parce que ça a été littéralement ça. Ça a été vraiment dans un contexte où non seulement Ferrari avait la chance de finir deuxième. D'accord, Sainz ne s'est vraiment pas aidé en se qualifiant 16e samedi, mais il avait clairement le rythme pour aller se retrouver dans le top 10. Et là, il y a une stratégie vraiment loufoque, un peu comme celle de Piastri à Vegas la semaine d'avant. Donc, pourquoi ne pas avoir tenté les médiums? Parce que ça a été un peu ce que Lance Stroll aussi a fait. et pourtant Stroll était devant et a fait une meilleure course que l'Espagnol dans la Ferrari. Donc, ça, c'est quelque chose qui mérite d'être encore une fois retravaillé, mais c'est le jour de la marmotte quand on parle de Ferrari quand il est question de stratégie. Et dans tout ça, ben Mercedes finit deuxième au championnat des constructeurs avec tout d'abord une belle conduite de George Russell qui a réussi en début de course à se débarrasser des deux McLaren avec deux bons dépassements, avec un dépassement sur Piastri, même si ce dernier lui a rendu la vie un peu dure. Et aussi le fait que ça a été un arrêt vraiment long pour Lando Norris dans les puits et Russell a pu sortir devant lui et devant Piastri aussi. Donc, ça a été un peu plus facile. Et Russell ne se sentait vraiment pas bien de son propre aveu. Et même sur le podium, on le voyait tousser. Donc, il était un petit peu malade durant ce week-end. Alors, il a quand même porté cette Mercedes à bout de bras pour la deuxième place aujourd'hui. Avec Lewis Hamilton, bon, qui finit 9e, aurait pu lui aussi sécuriser le tour, mais ça a été un week-end assez difficile pour le septuple champion du monde. Un dépassement qui allait être important sur Yuki Tsunoda dans le dernier tour, mais c'est raté dans le virage 9. Donc, heureusement, la pénalité à Perez a aidé Mercedes dans ce sens, mais Hamilton a fait mieux que Sainz, mais ça n'a pas été un week-end vraiment facile pour Hamilton en se qualifiant d'abord 11e. Fait une bonne course, mais s'est fait dépasser par Fernando Alonso que ce dernier a dû reprendre la position aux dépens de son grand rival. Au moins, Mercedes finit deuxième et pourra dire adieu pour de bon à cette W14. Donc, mais les derniers Grands Prix ont été vraiment difficiles pour les flèches d'argent. L'écurie va être quand même contente d'avoir été vice-championne du monde, mais il y a beaucoup de travail à faire pour la W15. Sinon, l'étoile de ce Grand Prix, ça a été Yuki Tsunoda. Il s'est qualifié de 6e, son meilleur résultat en qualif en Formule 1, a fait une course vraiment bonne, a été dans le coup, a vraiment retardé, fait un bon relais avec le pneu médium. Et d'autant plus, il est devenu le premier Japonais depuis Takuma Sato au Grand Prix d'Europe 2004 avec la BAR Honda à mener un Grand Prix de Formule 1. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'il menait un Grand Prix dans sa carrière. Et surtout sur un circuit où il a obtenu son meilleur résultat en carrière, c'est-à-dire 4e en 2021 à son année recrue dans ce fameux Grand Prix dont on en reparlera, dont plusieurs personnes continuent d'en parler. C'est comme une guerre de tranchées. Mais dans tout ça, Tsunoda avait fini 4e. Donc, c'est un circuit où il est vraiment à l'aise. Et aussi, il était sur une stratégie en arrêt. C'est peut-être le point faible de ce... C'est en fait Tsunoda qui est resté sur une stratégie en arrêt. C'était le seul à le faire d'ailleurs. Il marque des points, mais ce n'est pas assez pour dépasser Williams pour la 7e place. Mais néanmoins, Tsunoda a fait le travail. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est sa meilleure saison en Formule 1. Il a eu des pilotages vraiment bons. Celle-là était une de ses meilleures. Surtout où la AlphaTauri a vraiment évolué depuis plusieurs Grands Prix. Et aujourd'hui, ça a été justement le cas, mais je ne sais pas pourquoi AlphaTauri s'est entêté avec une stratégie en arrêt parce que clairement, cette voiture avait le rythme pour finir 6e ou 7e. C'est juste dommage, mais c'est sûr qu'il va avoir une déception de ne pas avoir été en mesure de finir devant Williams, mais au moins, il y a une satisfaction que il y a une bonne base pour partir sur 2024. Et évidemment, avec un nouveau directeur d'écurie, vu que c'était le dernier Grand Prix de Franz Tost à la barre de AlphaTauri, ou même c'était le dernier Grand Prix sous le nom AlphaTauri, puisque les deux vont partir à la retraite. Tost mérite vraiment sa retraite. Et AlphaTauri, mérite de partir parce que, à part pour vendre des vêtements qui sont extrêmement chers, je veux dire, une tuque à 69$ ou 69€, c'est super cher pour une tuque. Mais au moins, AlphaTauri a fini la saison en bonne forme et Tsunoda, autant que, mais même plus que Ricardo, mérite des applaudissements. Mais beaucoup plus du côté de Williams, qui a réussi à maintenir la septième place dans un Grand Prix extrêmement compliqué pour eux. Vraiment loin derrière. Alex Albon a chuté au classement durant le Grand Prix. En fait, dès le premier tour, Logan Sargeant n'était nulle part. Donc, il a fallu que ce soit Fernando Alonso et presque Lewis Hamilton qui ont fait en sorte que Williams a pu sécuriser une septième place. C'est une belle saison. Ça a été vraiment d'abord, un excellent travail de la part d'Alex Albon qui a amené cette Williams là où on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit. Oublions Abu Dhabi, ça a été une catastrophe. Et même Vegas où ils ont vraiment été à la traîne sur un circuit où ils ont réussi leur meilleure qualification de la saison. Au moins, ce sont des millions de plus. Ça va être du temps de soufflerie et de CFD utile. Et aussi une position au garage un peu plus favorable. Mais c'est un Grand Prix d'Abu Dhabi à oublier. Et reste à voir si... Ou je devrais dire, quand est-ce que Logan Sargeant va être sécurisé pour 2024? Parce que au moment où on se parle, il n'y a pas encore d'officialisation officielle comme quoi Sargeant va être de retour aux côtés d'Albon chez Williams l'année prochaine. Mais ça va célébrer du côté de la troupe de James Vowles à sa première année en tant que directeur d'écurie en Formule 1 et avec Williams. Sinon, Aston Martin, ça a été une bonne course. Alonso a été vraiment bon. Par contre, peut-être le bémol sur, disons, la tentative de laisser Lewis Hamilton dépasser avant le virage 5 pour qu'il puisse le redépasser avec le DRS. C'était très limite, je trouve. Mais en même temps, ça reste du Alonso. Ça reste une tactique digne de Fernando Alonso, comme on l'a vu depuis des années. Et puis, juste avant d'enregistrer, je regardais en fait l'analyse d'Alex Brundle, qui disait où on voyait en bord de la voiture d'Alonso, il regarde où se trouve Hamilton, vraiment sur le côté droit. Il va se placer là, mais c'est comme il est un peu déconcentré parce que il a les deux roues hors trajectoire, hors de la piste et freine plutôt qu'à l'habitude, mais sans pour autant causer un contact entre les deux parce que ça aurait pu mal se terminer. Mais c'était limite et la FIA a jugé qu'il n'y avait aucune sanction à donner ou quoi que ce soit. Ça a été sous enquête, mais d'autant plus, je crois que ça a été classé sans affaire. Par contre, j'espère que c'est quelque chose qui va être, et comme je l'ai dit, et comme ça a été dit avec Jolyon Palmer et Enzo Fittipaldi, Pietro Fittipaldi dans l'après-course sur F1 TV, c'est quelque chose qui va être à revoir parce que oui, c'est une tactique digne d'Alonso de freiner un peu plus tôt et d'essayer plusieurs trajectoires, mais là-dessus, sur un virage où c'est facile de dive bomber, ça aurait pu mal se terminer si c'était le cas. Mais bon, au moins, il n'y a pas eu de pénalité. Tout est bien qui finit bien, I guess. Et sinon, du côté de Lance Stroll, ça a été une bonne course. Fini dans le top 10 au moins au championnat des... non seulement dans ce Grand Prix, mais au championnat des pilotes. Donc, ça a été bien, sans fla-fla, rien du tout. Donc, et c'est vrai aussi que pour l'Aston Martin, on a vraiment arraché sur la longue ligne droite. Mais il va falloir qu'Aston Martin retrouve les couleurs qu'elles avaient en début de saison parce que McLaren est passé devant eux au championnat des constructeurs. Ça a fait mal, mais au moins, ils vont avoir plus de temps de soufflerie. Et avec les nouvelles installations, les nouvelles infrastructures dans leur usine, dans leur quartier général à Silverstone, ils n'auront pas le choix de vraiment apprendre à mieux développer la voiture. Et surtout pour Lance Stroll, d'être beaucoup plus constant parce que le dernier leg de la saison, à partir du Grand Prix des États-Unis à Austin, ça a vraiment été ses meilleures courses de la saison. Parti de la ligne des puits pour finir dans les points, septième. Ça a été la même chose à Mexico, mais contact avec, même s'il n'en est pas marqué de points, a fait une mini bonne remontée, mais accrochage avec Bottas. Au Brésil, se qualifie troisième, mais il finit cinquième dans une course où il a bien fait. Vegas, un très bon premier tour, profite de tous les aléas et même d'une erreur de Alonso pour finir cinquième. Il aurait même pu finir quatrième s'il avait dépassé Esteban Ocon. Et là, fini à Abu Dhabi, peut-être un peu dans l'anonymat, mais avec une dixième place. Ça finit bien, ça finit bien la saison, mais évidemment, on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus constant sur l'ensemble de la saison, parce que c'était relativement bien parti. N'oublions pas aussi qu'il avait manqué les essais à cause de ses fractures au poignet. A bien commencé la saison avec de belles performances, surtout au Bahreïn et même en Arabie Saoudite avant d'abandonner. Mais ensuite, ça a été le retour du Lance Stroll qu'on connaît malheureusement. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine, autant pour Aston Martin que pour Lance Stroll. Donc, sinon, je pense que Alpine, course difficile, Gasly un peu en furie pour des décisions un peu stratégiques, un arrêt au puits assez long aussi. Donc, ça a été décevant. Il y a ça aussi. Sinon, Ricardo un peu à l'anonyme aussi, malgré le fait qu'il y ait une vie... une surprotection de visière qu'il a un peu amputé. Je sais pas s'ils l'ont enlevé lorsqu'il s'est arrêté au puits. Alfa Romeo, à leur dernier Grand Prix, à l'image de ce que ça a été, encore une fois anonyme, et Haas, malgré la bonne performance de Nicole Kenberg en qualification, ça a été encore une fois un désastre. Hülkenberg 15e. Kevin Magnussen, bon dernier. Alors, pour Haas, on avait hâte que la saison se termine. Et j'ai bien hâte de voir quel va être le feedback de Nico Hülkenberg parce que depuis quelques Grands Prix, il y a eu des déclarations où vraiment, il n'hésite pas à être direct pour dire que il y a des problèmes chez Haas. Et je pense que c'est ça qu'il faut Je l'expliquerai un peu en détail lors de la revue de l'année, mais je crois que Hülkenberg est exactement le pilote qu'il faut chez Haas. Il a été très bon sur un tour. Ça fait quoi? 8 fois qu'il a été en Q3 avec la pire voiture du plateau. C'est quand même quelque chose à faire. Et j'espère pour vrai qu'on va donner un ultimatum à Kevin Magnussen, parce que pour moi, c'est une des grosses déceptions de la saison. Très grosse déception. Donc, je pense qu'on va en finir là. C'est tout. Ça n'a pas été un Grand Prix vraiment excitant. Donc, vraiment content que ce soit terminé. Avant de vous donner le classement le classement final des pilotes et des écuries, on va aller faire un tour en Formule 2 parce que c'était aussi la dernière course de la saison, les dernières courses de la saison en F2, et il y avait un championnat qui se jouait entre Théo Pourchaire et Frédéric Vesti. Donc, dans la course sprint, Frédéric Vesti a remporté l'épreuve devant Enzo Fittipaldi et Richard Verschoor. Pourchaire, qui s'était qualifié 14e après avoir perdu son meilleur tour, je pense en raison de track limits, a quand même fait une bonne remontée, a fini 7e. Mais quand même avait un certain avantage pour la course feature. Vesti a fini 3e dans la course principale, derrière Jack Doohan, le vainqueur, et Victor Martins. Et Pourchaire a fini 5e. Il est donc le champion de la saison 2023 de Formule 2. Et non, ce n'est pas un championnat du monde, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont dit « Ah, Pourchaire est un champion du monde de Formule 2 », mais non. La Formule 2 n'est pas un championnat du monde en monoplace. Donc, en monoplace, seule la Formule 1 et la Formule électrique sont des championnats du monde officiellement sanctionnés par la FIA. Donc, ce qui veut dire qu'au classement des pilotes, Pourchaire finit avec 203 points devant Frédéric Vesti à 192. Jack Doohan, troisième avec 168 points, finit devant Ayumu Iwasa avec 165 points et Victor Martins est 5e avec 150 points, ce qui veut dire qu'il est officiellement la recrue de l'année. Il va s'adjuger le trophée Antoine Hubert remis à la recrue de l'année. Il a fini devant Olive Berman, qui est un membre de l'Académie Ferrari et qui a fini 6e avec 130 points. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la saison de Formule 2. Maintenant, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Pourchaire va faire, parce que comme Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont été reconduits pour 2024 et Pourchaire va être encore le pilote de réserve pour la saison prochaine avec Sauber et non Alfa Romeo, ça va être intéressant de voir quel sera son programme. Est-ce qu'il va seulement faire comme Felipe Drugovich et se concentrer sur le rôle de pilote de réserve chez Sauber, ou aller voir dans d'autres catégories aussi? Alors, c'est quelque chose qui va être à voir. Et même chose aussi pour Vesti, parce que j'ai vu passer comme quoi il pourrait aller voir ailleurs dans d'autres catégories. Est-ce que ça pourrait être des courses de GT3? Est-ce que ça pourrait être est-ce que ça pourrait être aussi dans d'autres catégories, la Super Formula, ça reste à voir, mais le pilote qui était avec Prema a dit que c'est sa dernière année dans les catégories juniors. Donc, voyons voir qu'est-ce que l'avenir lui réserve, pardon. Donc, on va aller, pour compléter ce dernier après-course, je vais vous donner le classement final au championnat des constructeurs, le top 10. Chez les pilotes, Max Verstappen finit la saison avec 575 points. saison record de toutes les manières. Sergio Perez finit deuxième avec 285 points. Lewis Hamilton est troisième avec 234 points. Fernando Alonso termine quatrième à égalité avec Charles Leclerc. Mais étant donné qu'au countback, je pense qu'Alonso a plus de troisième place que Leclerc, c'est lui qui finit quatrième. Donc, c'est un premier top 5 pour l'Espagnol depuis, je pense, 2013, lorsqu'il avait fini vice-champion du monde. Donc, Leclerc est cinquième. Lando Norris est sixième. Donc, Alonso, Leclerc et Norris finissent respectivement avec 206 et 205 points. Et Carlos Sainz termine septième avec 200 points pile. George Russell est huitième avec 175 points. Oscar Piastri sur la McLaren, 97 points. Et Lance Stroll complète le top 10 avec 74 points. Au championnat des constructeurs, Red Bull avec 860 points. Mercedes avec 409 points devant Ferrari à 406. Ça s'est joué jusqu'au dernier tour de cette saison 2023. McLaren, après un début de saison hyper difficile, finit quatrième avec 302 points devant Aston Martin avec 280. Alpine est sixième avec 120 points. Williams termine septième avec 28 points. C'est 3 points de plus qu'à AlphaTauri. Alfa Romeo, 9e avec 16 points. Et Haas est dernier, 10e et dernier avec 12 points. Alors, c'est ce qui complète cet épisode d'après-course, le dernier de la saison. Et devinez quoi? Il ne reste plus que 2 épisodes avant au bulletin GP. Dans 2 semaines, on aura un dernier quiz. Je vais le faire en audio, mais aussi en vidéo, qui va sortir un peu plus tard. Et évidemment, il y aura toujours cette revue de l'année 2023 du bulletin GP qui va paraître, je vais vous le dire, le vendredi 29 décembre. Donc, ça va être notre dernier épisode de podcast avant le 2024 même. Donc, je vous rappelle, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres plateformes où le bulletin GP est disponible. N'hésitez pas à partager le tout avec vos amis qui sont fans de course automobile, de Formule 1, entre autres. Et n'hésitez pas à nous laisser des notes, à savoir est-ce que c'est bon, si vous le conseillez, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et aussi, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, Threads, @lebulletingp. Sans oublier, évidemment, le groupe Facebook La Monoplace. Donc, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés pour ces 22 ou 23 épisodes d'après course de la saison 2023 de Formule 1. On va être de retour en 2024. Donc, le décompte est officiellement commencé. 97 jours avant le Grand Prix de Bahreïn, qui, je vous rappelle, aura lieu un samedi plutôt qu'un dimanche. Donc, moi, j'ai super hâte. D'autant plus que ce Grand Prix sera vraiment un samedi, à l'inverse de Vegas, où la course était, certes, un samedi officiellement, mais dans ma zone, un dimanche. Et même deux samedis consécutifs, parce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite aura lieu un samedi aussi. Alors, 97 jours avant le Grand Prix de Bahreïn. Donc, au nom de Ana Maria Mercado López, Jean-Sébastien Barbeau, Marc-André Fortin, et même Brian Remed, même si vous ne l'avez pas entendu, mais qui reste quand même impliqué. Mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Merci de nous avoir écoutés pour ces épisodes d'après-course. Et on se retrouve en 2024. Mais il reste encore 2 épisodes à la balado officielle du bulletin GP. Salut tout le monde et portez-vous bien.